Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. L'invité cette semaine d'Escale est Bernard Mouna, le juriste camerounais qui préside la commission d'enquête sur les droits de l'homme en République centrafricaine. Bernard Mouna qui vient de présenter à New York le rapport intérimaire préparé par l'équipe qu'il dirige. Il revient sur le mandat de la commission et sur les activités qu'elle mène sur le terrain pour identifier les personnes suspectes d'avoir commis ou ordonné des meurtres en RCA. Bernard Mouna, bonjour.
Bonjour.
Bernard Mouna, vous êtes un haut magistrat camerounais, vous avez été procureur adjoint du Tribunal pénal international pour le Rwanda et vous êtes actuellement président de la commission d'enquête sur la République centrafricaine, une commission qui a été créée par la résolution 21-27 du Conseil de sécurité en date du 5 décembre dernier. Alors première question, Bernard Mouna, concernant justement donc, cette situation et ces violations des droits de l'homme donc, en RCA, vous êtes rendu sur place. Quels sont les premiers constats, quelles sont les premières constatations que vous avez pu faire?
Oui, la première constatation est que quand vous avez un pays qui n'a pas de force de l'ordre, ça c'est les premières choses qu'on doit savoir. À la République centrafricaine, à ce moment-là, vous savez qu'il n'y a pas l'administration, il n'y a pas de force, la police, il n'y a pas de gendarmes. Donc la criminalité aussi vient s'ajouter, n'est-ce pas, au problème de conflit armé qui a eu lieu à la République centrafricaine. Notre travail devient un peu difficile parce que nous ne pouvons pas pénétrer l'intérieur du pays, parce qu'il n'y a pas l'administration, il n'y a rien absolument. Peut-être que vous avez déjà entendu que même nos enquêteurs ont été stoppés par l'anti-Balaka, étaient pris en otage avec certaines personnes à la CRC et puis Médecins Sans Frontières. Et puis, heureusement qu'on a pu négocier leur liberté. C'est-à-dire que c'est une situation très volatile. Ça peut changer à tout moment. Cette constatation aussi nous amène là où nous ne pouvons pas faire l'enquête comme nous aurons souhaité. Donc, nous avons décidé de faire un plan de travail. C'est-à-dire qu'on va d'abord travailler, nous avons déjà travaillé à Bangui. Et puis, nous espérons qu'avec l'arrivée des troupes unitiennes, à ce moment-là, nous pouvons aller dans l'arrière-pays.
Alors vous dites, nous, vous parlez donc de la commission, vous présidez cette commission. Combien de membres donc on compte dans cette commission? Quels sont les moyens dont vous disposez?
Voilà donc, pour le moment, nous sommes deux. On était trois commissionnaires, mais malheureusement, un de nos collègues qui vient de la Mexique n'a pas pu supporter la situation. Il est donc parti. Je suis là avec Madame Fatimata Mbaye qui vient de Mauritanie. C'est un avocat de longue date, un des premiers avocats femmes à la Mauritanie. Nous avons un bureau, c'est la première fois que pour faire un commissaire d'enquête, les Nations Unies a permis d'ouvrir un bureau directement aux pays concernés. Donc nous avons un bureau à Bangui. Nous avons un coordinateur, M. Roland Massouga, qui doit coordonner toutes les enquêtes et tous les secrétariats. Donc, c'est un travail un peu difficile parce qu'on n'a pas beaucoup d'enquêteurs. Nous avons deux équipes de cinq enquêteurs pour un pays qui est presque une fois et demie la taille de la France. Deux équipes de enquêteurs ne peuvent pas couvrir tout le pays. Mais je pense que l'essentiel est que malgré toutes les difficultés, la communauté internationale nous attend parce qu'il nous a donné un travail à faire. Nous espérons que nous pouvons le faire à la satisfaction. Nous sommes ici expressément pour déposer notre rapport intérimaire et puis nous espérons que avec ce rapport intérimaire, le Conseil de sécurité peut comprendre mieux ce qui se passe à la République centrafricaine.
Alors justement, sur le contenu de ce rapport intérimaire, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Quels sont les premiers éléments que vous avez pu collecter? Quels sont les premiers enseignements de vos enquêtes?
Les premiers éléments, il y avait beaucoup de violations. beaucoup de violations de la part de Séléka et de la part de Antibalaka. Les deux parties ont commis beaucoup d'exactions et des violations des droits de l'homme. Vous savez que c'est un conflit qui, à la base, un coup d'État. C'était un coup d'État, mais malheureusement, ce coup d'État, à un moment donné, est devenu un problème entre des ethnies et des religions. Nous espérons que l'intervention des Nations Unies est à temps et que ça ne pouvait pas développer un génocide. Mais je peux vous dire que les germes du génocide sont déjà là. Il y a le langage de la haine qui est déjà sur place. Il y a une épuration ethnique qui a déjà commencé, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de musulmans qui sont quittés pour le Tchad et pour le Cameroun, beaucoup de Peuls qui sont 200 000 sont au Cameroun, ainsi de suite. Donc, c'est une tâche énorme pour ramener ces pays à la normalité. Nous espérons que quand les passions vont s'apaiser un peu, les gens pourront voir la logique et peut-être commencer la reconstruction de leur pays.
Vous parliez justement des divisions, des germes de génocide par rapport aux ethnies, mais aussi à la religion. Entre chrétiens et musulmans aujourd'hui, on dit, certains accusent et disent qu'il y a déjà une scission du pays, que le pays est partagé en deux, d'un côté les musulmans et de l'autre les chrétiens. Est-ce que vous le sentez comme ça?
Oui, évidemment, vous savez qu'il y a presque un mois et demi, en délai, il y avait un congrès de Séléka, qui est une organisation principalement musulmane. Et ils ont presque, dans leur déclaration, ils ont établi un état-major avec siège à Bambari. Et cet état-major a assumé, n'est-ce pas, la responsabilité dans certaines régions. Trois régions qui, en effet, presque partageaient le pays en deux. Mais nous pensons qu'avec l'arrivée des troupes tunisiennes, cette tentative, n'est-ce pas, de partager le pays va être annulé. J'espère que ça va être annulé parce que si le pays est partagé, ça c'est notre guerre, c'est notre violence, c'est notre conflit.
Vous êtes justement camerounais, vous connaissez bien et pour cause ce pays de la République centrafricaine, ce pays voisin. Mm-hmm. Comment voyez-vous justement l'évolution de la situation? Vous parlez, vous semblez mettre beaucoup d'espoir dans la venue des troupes de maintien de la paix qui soient annoncées en septembre. Mm-hmm. Est-ce que vraiment ça va se passer dans ces délais-là? Et est-ce que justement, au-delà du mandat que vous pourrez mener beaucoup mieux à l'intérieur du pays, mm-hmm, est-ce que vous pensez vraiment que la solution, en tout cas à court terme, c'est le déploiement massif de troupes de maintien de la paix?
Oui, parce que pour le moment, les tueries et les actions ont été facilitées parce qu'il n'y avait pas de force de maintien de l'ordre. Donc même à Bangui, il y a des gens qui tuent les gens ouvertement et partent. Il n'y a pas de police pour l'arrêter. Même là où on arrête, il n'y a pas la prison pour le garder. Donc je pense que cette première étape d'avoir des troupes qui auront aussi le mandat de maintien de l'ordre va aider en premier lieu d'avoir une sorte de l'ordre dans la République. Après, ça va faciliter les enquêtes. Ça va faciliter les enquêtes. Et je pense qu'à la fin de compte, avec l'apaisement de passion, on peut engager le dialogue. Pour le moment, on peut engager le dialogue là où la passion est en très haut niveau.
Je parlais en début d'interview de cette résolution, la 21-27, qui vous charge notamment d'identifier les auteurs des violations contre les droits de l'homme et de déterminer aussi leurs responsabilités. Vous nous avez dit qu'il y a des Séléka qui ont commis des crimes, il y a aussi des Antibalaka. Est-ce que vous avez pu déjà identifier?
Oui. Nous avons trouvé, par exemple, il y avait n'est-ce pas, des charniers dans le Mille Collines. Il y avait des charniers dans certaines parties et nous savons déjà qui est à la base de ces charniers. Nous pouvons désigner des responsabilités suivant la chaîne de commande. Évidemment, pour ces cas, la chaîne de commande est plus facile parce qu'ils ont un commandement et ils ont un état-major bien désigné. Mais pour Antibalaka, c'est un peu difficile parce que les Antibalaka sont plus indépendants en tant que de petits groupes qui contrôlent une certaine partie des régions. Et donc, il fallait, dans nos enquêtes, savoir où, n'est-ce pas, les actions ou les crimes ont été commis. Et à ce moment-là, nous pouvons chercher qui était le anti-Balaka qui était chargé dans cette région. Et c'est comme ça qu'on pouvait désigner donc les responsables.
Est-ce que uniquement vous réservez le droit de poursuivre donc les auteurs ou est-ce qu'également les commanditaires? On sait que parfois derrière certains de ces groupes, il y a des anciens dirigeants du pays, on montre du doigt telle ou telle personne. Est-ce que là également vos actions vont tendre à poursuivre ces personnes?
Je dis même plus, je dis que quoi? Que en première ligne, c'est les politiciens. Les politiciens qui ont exploité la population, qui ont avancé et abusé les pouvoirs qu'ils avaient auparavant, qui ont détourné l'argent du pays, qui ont été corrompus, qui ont exploité les richesses du pays sans faire attention à la besoin du pays, ils sont en première ligne. Les autres, je pense, servaient ces politiciens-là. Ces politiciens ont les utilités. Donc, les politiciens qui ont le sang sur la main ne seraient pas épargnés. Absolument. Vous savez aussi que l'impunité qui existait à cette république a existé parce qu'il y avait cette répétition des faits. Coup d'État, loi d'amnistie, conciliation. Loi d'amnistie veut dire quoi? Couvrir ou excuser ceux-là qui ont commis des crimes et qui ont commis des excès. Cette fois-ci, avec l'intervention des Nations Unies, je pense que nous allons veiller à ce qu'il n'y a pas l'impunité. Veiller à ce qu'un politicien qui est impliqué, qui a le sang sur la main, ne pouvait pas être, n'est-ce pas, épargné. Il doit répondre. Il doit répondre devant le tribunal. Ce n'est pas à nous, à ce moment-là, de faire l'enquête judiciaire, mais notre enquête va aider le Conseil de sécurité de savoir quel mécanisme établi pour, finalement, que ces gens doit être traduit à la justice.
Dernière question justement sur la vitesse de la justice. Souvent on se plaint tant au niveau national qu'international de la lenteur de la justice. Donc une fois que votre commission d'enquête aura rendu ses rapports définitifs, on va dire, le Conseil de sécurité examinera donc ce rapport et décidera donc des suites à donner. Entre le moment où vous aurez fini votre enquête et les premières condamnations, on peut espérer combien d'années?
Nous sommes très conscients de ce problème-là. Nous espérons que nos recommandations vont donner des possibilités du Conseil de sécurité de crier rapidement, même dans la solution, avec l'aide, même avec une résolution de commandement de transition, créer un mécanisme qui peuvent engager rapidement les voies de jugement de ces gens. Il y a plusieurs mécanismes qu'on peut faire. Mais je ne pense pas qu'on doit retourner au modèle de Arusha ou de modèle qui va durer des années. Et si ça dure des années, ça ne sert pas à la population.
On rappelle Arusha, c'était donc le tribunal, c'est toujours d'ailleurs le tribunal pénal international pour le Rwanda,
exactement,
dont vous avez été le procureur adjoint.
Exactement.
Merci en tout cas Bernard Mouna d'avoir répondu à ces questions. Je rappelle donc que vous êtes le président de la commission d'enquête sur les violations des droits de l'homme en République centrafricaine. Merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
Voilà, fin de ce magazine Escale, magazine préparé et présenté cette semaine par Jérôme Longuet et produit et mixé par Florence Westgaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies, et ce en tapant radio.un.org/fr. Je répète, radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.